un peu spécial que ce moment où on regarde les photos de vacances. D'un côté, les photos rappellent ce que l'on a vécu, fixent certains instants, mais quand on les regarde, ces photos, on sait une chose, c'est que les vacances sont désormais derrière nous. On les avait attendues, on les a vécues, elles sont terminées, c'est le moment d'embrayer sur autre chose. Et notre vie est ainsi faite de ces étapes qui se succèdent, marquées par des commencements, par des fins. Il y a un temps pour toute chose sous le ciel, nous rappelle l'Ecclésiaste. Et c'est apaisant pour nous de savoir que, au travers de la multitude de ces temps qui forment notre vie, le Seigneur trace son chemin pour nous, véritablement. Alors, lorsque nous pensons à la rentrée, nous pensons souvent à la rentrée comme une nouvelle étape, comme un commencement. Et cela va avec tous les projets qu'on fait pour la rentrée, les espoirs d'une année nouvelle, etc. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais notre texte de ce matin ne nous parle pas d'un commencement, mais il nous parle d'une fin. Dieu met fin à une période particulièrement exigeante pour le peuple d'Israël. Dieu envoie la pluie après une longue période de sécheresse qui avait duré plus de 3 ans. À première vue, il semblerait que nous soyons décalés avec cette question de fin, alors que la rentrée est une question de commencement. Mais enfin, on dit parfois qu'il ne faut pas se fier aux premières impressions, et j'espère que quand même ce que nous lisons ce matin pourra nous aider à bien repartir. Alors, je rappelle brièvement le contexte de notre récit. Voilà plus de 3 ans qu'Israël connaît la sécheresse. Car le peuple, entraîné par le roi Achab et sa femme Jézabel, a abandonné Dieu pour s'adonner au culte de Baal. Ce culte de Baal était censé garantir la fertilité. C'était les prérogatives qu'avait ce dieu Baal. Et Élie, véritablement, s'est fondé sur les paroles de l'Alliance de Dieu, qui disait que si le peuple de Dieu s'écartait du Seigneur pour aller vers les idoles, il n'y aurait plus de pluie. Il n'y aurait plus de fécondité. Et dit Élie donc s'est fondé sur ces paroles-là pour annoncer qu'en effet, il n'y aurait plus de pluie en Israël à cause de cette infidélité. Il avait prié, Dieu a fermé les cieux pendant plus de 3 ans. Au bout de ce temps, Élie convoque Achab et tout le peuple pour une convocation publique au mont Carmel entre lui et les prophètes de Baal. Et il invite Israël à une décision claire. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Puis il propose l'épreuve de vérité. Le Dieu qui fera descendre le feu du ciel soit reconnu comme vrai. Les prophètes de Baal ont beau se démener, rien ne se passe lorsqu'ils prient Dieu leur Baal. À la simple requête d'Élie, au contraire, le Seigneur répond et se manifeste comme le Dieu il fait tomber le feu du ciel. La réaction du peuple est sincère. Elle dit, c'est le Seigneur qui est Dieu. Les prophètes sont mis à mort, les prophètes de Baal. Dieu s'est authentifié et le peuple d'Israël qui était présent au Carmel l'a reconnu, est revenu à lui. Une grande victoire donc pour le Seigneur. C'est ce qu'apporte le contexte. Son honneur est retrouvé. Sa vérité est affirmée. Le mensonge des Baals est mis en évidence. L'Éternel est le seul Seigneur. Et on pourrait se dire maintenant, tout est fait. L'histoire peut s'arrêter là. C'est bien, Dieu s'est attesté. Et souvent, lorsque l'on pense à ce récit du Carmel, c'est en effet là qu'on arrête l'histoire. Dieu s'est manifesté comme le Seigneur. Le triomphe de Dieu dans sa confrontation. Pourtant, l'histoire se termine autrement. Ce n'est pas le feu du ciel qui est le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu, c'est la pluie bienfaisante pour le peuple, pour un peuple assoiffé, pour un peuple complètement à sec après plus de 3 ans de sécheresse. Autrement dit, Dieu manifeste sa gloire, lui, oui. Dieu s'atteste comme le Seigneur, oui. Mais à l'œuvre de son triomphe, il ne garde pas tout pour lui tout seul. On pourrait dire il ne fait pas un once God show, hein, un show pour Dieu tout seul. Il au moment où il s'atteste comme le Seigneur, à l'heure de son triomphe, il n'oublie pas le bien de son peuple. Il n'oublie pas les besoins de son peuple. Il n'oublie pas sa grâce pour donner à son peuple le secours enfin dont il a besoin. Il s'atteste comme un Dieu qui n'est pas centré sur lui-même, sur sa propre gloire, mais comme un Dieu qui se tourne vers nous. Et tout comme il a veillé à montrer à Israël que les Baals mènent au désastre, il veille à faire du bien après s'être clairement manifesté comme le seul Seigneur. Et il montre par là qu'il est non seulement le Seigneur, mais un Seigneur qui est véritablement pour nous. La gloire du Seigneur est toujours partage. Et nous savons que lorsque Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ, il l'a manifesté de manière encore plus éclatante. Il est venu, il s'est manifesté, mais il s'est manifesté pour se donner. Israël et Élie ont vécu plus de 3 ans de sécheresse. C'est difficile d'imaginer ce que cela peut signifier quand même. Plus de 3 ans de sécheresse. Nous savons ce que veulent dire parfois dans nos pays 2 mois de sécheresse, 2 mois sans pluie, 3 mois peut-être. On sait dans le sud de la France ce que peuvent être par exemple des champs complètement, des étendues brûlées par le soleil, ça on le sait. On a vu aussi cette année des plants de blé tout rabougris par le manque de pluie au printemps. Mais tout ça c'est l'affaire d'une saison où il n'y a pas beaucoup de pluie, pas plus. Là ce n'était pas une saison ni deux, mais c'était tout un cycle, le cycle d'une année. Puis un deuxième cycle d'une année, puis un troisième cycle d'une année, et encore on repart. Chaque nouvelle saison sèche aggrave les précédentes, accentue les ravages, les pertes, les besoins. Il y a des jeunes enfants en Israël en ce temps-là qui n'ont jamais vu la pluie, vous imaginez ? Des jeunes enfants de 3 ans qui ne savent pas ce que veut dire la pluie à cause de cette sécheresse, qui n'ont jamais connu la fraîcheur qu'elle apporte. Ils n'ont jamais vu l'herbe verte, ils n'ont jamais vu un arbre vraiment avec des feuilles, avec des fruits. Ils n'ont jamais bu à leur soif. Et parmi les adultes, évoquer la verdure, évoquer la pluie, le printemps, c'est réveiller un manque, c'est réveiller une nostalgie, une douleur et une angoisse aussi certainement. Depuis tant de mois, on a regardé chaque soir le ciel, espéré peut-être un nuage, une ondée, un peu de fraîcheur, un peu de vie et rien, rien. Toujours rien. Quand nous lisons « Il n'y eut pas de pluie pendant 3 ans », nous pensons au jugement mérité par Israël. Et c'est vrai, c'est un aspect de la chose. Mais il y a eu aussi cette douleur éprouvée pendant tout ce temps de la sécheresse. Et ce texte nous rappelle que Dieu n'oublie pas cette réalité difficile, même alors qu'il faut juger son peuple. Et il veille à ce qu'il y ait une fin à ce temps de sécheresse pour son peuple. Il prend l'initiative en vue de cette fin. C'était le but de la confrontation au Carmel, au début du chapitre 18, lorsque Dieu invite Élie à rassembler Akab et le peuple. Il lui dit, « Va te présenter devant Akab et je ferai tomber la pluie sur le pays. » C'est le Seigneur qui a l'initiative ici. Il se manifeste vraiment comme ce Dieu qui, selon les mots d'Ésaïe, veut verser de l'eau sur un sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, en sachant qu'il s'agit là d'une image pour parler des besoins des personnes. Et je crois qu'il y a là un genre de fin, F-I-N, auquel il est bon que nous soyons attentifs et auquel il nous faut aussi savoir donner force en ayant foi en Dieu. Le Seigneur construit notre vie autour de toutes sortes de temps. Nous l'avons dit, certains bons moments ont donc une fin, il faut l'accepter, mais certains moments durs, certains moments secs sont eux aussi limités par le Seigneur. Ils sont eux aussi balisés par le Seigneur, tout comme ce temps de sécheresse a été quand même limité d'une certaine façon par le Seigneur à ce moment-là. Dieu veille à ses limites dans notre vie aussi. Et nous pouvons avoir confiance en lui pour cela également. Et nous ne devons pas l'oublier, même si nous traversons peut-être des temps exigeants qui durent ou qui semblent devoir se prolonger devant nous. Dieu est aussi le Seigneur qui sait dire fin à ce genre de situation. Et cela dans l'histoire d'Israël, on le découvre à plusieurs reprises. Après que le peuple est tourné dans le désert pendant bien des années à cause de l'incrédulité, là aussi, vient un moment où Dieu dit à son peuple, et c'est une belle parole de Deutéronome chapitre 2, qui dit, vous avez assez tourné maintenant autour de cette montagne. Maintenant, prenez la direction du nord. Vous avez assez tourné en rond. Dieu dit fin à ce genre de situation, à cette étape-là. Après un temps en exil aussi, la parole du Seigneur s'élève. Réconfortez mon peuple, dites-lui que son combat est terminé. Et ici, c'est pareil. Dieu dit, je ferai tomber la pluie. Et c'est pourquoi Paul nous rappelle, notre Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que nous soyons mis à l'épreuve au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que nous puissions la supporter. Dieu veille sur ses fins, qui sont des ouvertures, des issues. Alors nous avons tous nos temps, plus ou moins, de sécheresse, où nous aspirons à ce qui pourra nous apporter peut-être intérieurement plus de fraîcheur, de renouveau. Certains peut-être abordent la rentrée en ressentant cela beaucoup plus que la nouveauté, l'élan de la rentrée. Recevons vraiment de notre texte cette perspective que de tels temps sont limités, de tels temps sont balisés par le Seigneur, même s'il les permet. Il est un Dieu de grâce et il est ce Dieu qui a fait la promesse, je verserai de l'eau sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Maintenant, si nous essayons de voir comment ce texte peut nous rejoindre, il y a peut-être un autre aspect où nous pouvons le souligner, c'est que ce texte nous parle aussi d'autres types de moments de sécheresse ou d'aridité. Il peut arriver, ou comme pour Israël ici d'ailleurs, notre sécheresse, notre aridité nous viennent de l'éloignement de Dieu. Et ça nous arrive aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, pour ramener à lui son peuple, le Seigneur s'est authentifié d'une manière impressionnante, qui saisit et qui fait peur. Le feu est tombé, feu capable de tout dévorer sur son passage. Et Dieu doit parfois employer des moyens comme ça qui secouent parce qu'il faut créer les prises de conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque le peuple d'Israël revient au Seigneur, Dieu ne les laisse pas avec le feu comme seul message. Il fait suivre le feu par la pluie dont on avait tant besoin. Une fois que son peuple est revenu à lui, Dieu ne met pas longtemps à le faire bénéficier des ondées rafraîchissantes auxquelles il aspire depuis si longtemps. Et je crois que c'est ce qui se passe aussi pour nous, par exemple, à chaque fois que nous venons et que nous demandons pardon à Dieu. Le Seigneur ne tarde pas, lorsqu'il nous pardonne, à nous renouveler ses bienfaits. Il ne tarde pas à le faire, à combler nos besoins lorsque nous revenons vers lui. Et cela aussi, cela dit vraiment qu'il est un Dieu de grâce. Il n'est pas un Dieu qui nous met au purgatoire pendant tout un temps avant de commencer à nous faire un peu de grâce et un peu de bien. Lorsque nous revenons à lui, il sait rapidement, comme il le fait ici, apporter aussi sa bénédiction, ses rafraîchissements. Continuons maintenant à examiner notre texte et essayons de voir comment les choses se passent très concrètement pour aller vers cet aboutissement de la promesse. Les choses s'enchaînent assez vite et pourtant, on peut discerner quelques étapes. Une première étape se passe entre Élie et Akab. Dieu s'est attesté face au Baal et Élie annonce à Akab que la suite viendra. Et il lui dit, Dieu apportera aussi à ton peuple la pluie dont il a besoin et que les Baals n'ont pas pu lui donner pendant toutes ces années de sécheresse. Et là, Élie a une parole un peu étonnante et qu'il faut relever. Il dit à Akab, « Monte manger et boire, car, dit-il, il y a un grondement annonciateur de pluie. Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Ou plus littéralement, « Il y a la voix d'une abondante pluie. » Élie donc annonce à Akab que la pluie est imminente. En quelque sorte, c'est comme si on l'entendait déjà venir, hein, cette voix d'une abondante pluie, comme si l'on entendait déjà un petit peu le vent dans les arbres, l'air qui se rafraîchit, et puis avec le ciel après qui va s'obscurcir juste avant ces grosses pluies d'été que l'on peut connaître. Il y a une voix ou un bruit, la voix ou le bruit d'une abondante pluie. À quoi Élie fait-il référence? Est-ce qu'il fait référence à quelque chose qui est en train de se passer autour d'eux? Je pense que non. Le texte tout indique dans le contexte qu'il n'y a rien qui se passe à ce moment-là autour d'eux. Il n'y a pas de brise ni quoi que ce soit qui se lève encore à ce moment-là. au moment où Élie parle, il n'y a pas encore le moindre nuage dans le ciel. Hein, même plus tard, quand il priera, ça mettra du temps à venir. Aussi loin qu'on puisse regarder, tout est comme avant. Élie, donc, en quelque sorte, anticipe ce qui va venir. Et cette voix, ce grondement d'une abondante pluie, Élie l'affirme en quelque sorte à cause de la promesse de Dieu. C'est parce que le Seigneur lui a dit « Va devant Akab et je ferai tomber la pluie sur le pays ». C'est pour cela, par confiance en cette parole, par la foi, qu'Élie parle de ce grondement de pluie et même ce grondement d'une abondante pluie. La confiance d'Élie est fortifiée par le fait que Dieu s'est déjà manifesté par le feu. Il sait que Dieu, qui a commencé à faire les choses, ira jusqu'au bout. Il ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Et donc, il affirme par cette parole à Akab que la pluie viendra. Et curieusement, il invite même Akab à aller manger et boire. Mange et bois, car il y a cette voie d'une pluie abondante. En quelque sorte, il assure peut-être d'abord là à Akab qu'il ne va pas connaître le sort des prophètes de Baal qui ont été mis à mort. Il peut lui manger, boire. Mais surtout, Akab doit être le témoin de ce qui va arriver. Élie tient, et le Seigneur tient à ce qu'Akab vraiment soit témoin de ce qui va arriver. Et Élie l'invite à reprendre des forces pour être bien présent sur ce qui va se passer, sur ce qui va arriver. Élie veut qu'Akab soit pleinement lucide. En même temps, Élie dit assez clairement à Akab qu'il ne sera que témoin. Il ne propose pas à Akab de prendre une part dans la suite. Il dit pas « Viens avec moi, on va prier ensemble ». Il dit « Non, va manger, va boire, tu verras ce qui se passera ». Tout ce qu'Akab peut faire, doit faire, c'est prendre soin de lui-même. Mais Élie, à sa façon, dit aussi son assurance que la pluie viendra. Il dit « Tu peux manger tranquille, tu peux boire en paix, tu n'as rien à faire, ça se passera de toute façon ». Et je crois que nous voyons ici Élie qui manifeste une vraie confiance dans l'action à venir du Seigneur et qu'il affirme, qu'il anticipe même en disant « Voilà, j'entends déjà ce bruit de la pluie qui vient ». Et je crois que nous avons nous aussi à savoir affirmer dans la foi que les promesses de Dieu comptent pour nous. Nous avons nous aussi à rendre ce témoignage par notre façon d'être, de vivre, par ce que nous partageons avec les uns ou les autres que nous rencontrons, comme ici Élie parle à Akab, nous avons à manifester véritablement, à être témoins que nous croyons dans ces promesses de Dieu, qu'elles comptent pour nous, qu'elles tiennent véritablement, même si nous ne voyons pas encore tout ce qu'elles annoncent. Nous avons, comme Élie, à trouver des positions claires que nous pouvons prendre dans la foi face à ce que nous vivons, face à ce que nous ne maîtrisons peut-être pas, rester ferme parce que nous comptons sur les promesses de Dieu. Nous avons aussi à le faire de manière juste et responsable, véritablement, à le faire pour nous-mêmes, pour tenir bon dans la foi, à le faire devant les autres parfois, comme un témoignage à rendre. Une précision quand même, en pensant à ce que dit Élie ici, qui anticipe en quelque chose, en quelque sorte, ce que Dieu va faire. Dire « j'entends la voix d'une pluie abondante », anticiper ce qui va venir, ce n'est pas un truc pour obtenir quelque chose de Dieu. Hein. Ce n'est pas un truc où, si nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, il nous suffirait d'affirmer très fort que nous le possédons déjà. C'est pas ça, ce n'est pas comme ça que fonctionne la foi. Certains parmi nous définissent la foi de cette façon. Crois que tu l'as déjà, affirme que tu l'as déjà, proclame que tu l'as déjà, et tu l'auras. Comme si c'était l'acte d'affirmer à l'avance qui était déterminant. Ou comme si c'était le volume de la force avec lequel je proclame que je l'ai déjà, qui était déterminant. Ce qui manque à cette manière de voir les choses, c'est que l'on ne s'interroge même pas pour savoir si ce que l'on affirme si fort est conforme à ce que Dieu veut. C'est quand même ça qui compte. C'est que ce que nous affirmons soit véritablement ce que Dieu veut. C'est ça ce qui est l'essentiel. C'est pas que nous l'affirmions haut, fort, avec toutes sortes de tonalités. Élie, ici, savait par la parole que le Seigneur lui avait dite, que Dieu enverrait la pluie. Il était donc sur un terrain solide quant à la volonté de Dieu. Il ne projetait pas seulement sur Dieu ses propres désirs. Et nous avons à faire ce même chemin. Savoir, par le recours à la parole de Dieu, savoir dans l'attente de Dieu, dans l'ouverture à sa volonté, ce que nous pouvons affirmer dans la foi. Avancer peut-être pas à pas pour dire des choses au fur et à mesure que nous comprenons qu'elles sont fortes, qu'elles sont certaines, mais dire fermement notre confiance là où elle est bien fondée et la vivre clairement à la fois pour nous-mêmes et devant les autres. C'est ce que fait ici Élie, qui n'a pas peur d'affirmer, d'anticiper les choses dans la foi, même s'il ne voit pas encore de ses yeux. Et je dirais que chaque fois que nous vivons en nous appuyant sur une promesse de Dieu, dans un domaine quelconque de notre vie, nous sommes exactement dans cette ligne-là. S'appuyer sur la promesse de Dieu, c'est anticiper ce que Dieu fera. Et c'est vraiment vivre cette foi fondée. Développons donc cette attitude en toute conscience et en toute responsabilité aussi, en nous appuyant vraiment sur les choses solides que nous avons par la parole du Seigneur. Ça, c'est un premier aspect de ce que nous voyons ici pour arriver à l'accomplissement de la promesse, une prise de position de foi bien fondée dans le Seigneur. Mais nous voyons aussi qu'avant que Dieu ne déverse la pluie bienfaisante, il y aura place pour une autre action d'Élie, une autre action du croyant. Et cette action prendra elle aussi sa place dans la réalisation de la promesse. Et ceci, c'est la prière d'Élie. Et même la prière fervente et persévérance. Et nous voyons là une action qui est souvent discrète, secrète, la prière, mais qui est indispensable si l'on veut être ouvrier avec Dieu, partenaire avec lui dans l'œuvre qu'il veut accomplir dans notre vie. Et c'est assez intéressant de voir ici qu'après qu'Élie ait parlé à Acab, après qu'il ait engagé aussi Dieu face à Acab en lui disant tu vas voir, hein, j'entends déjà la voix de cette pluie qui vient, Élie laisse Acab et Élie se retire avec son serviteur pour se retrouver dans le secret de la présence de Dieu. Et je dirais que c'est dans ce récit une deuxième fois où on assiste à une sorte d'heure de vérité. Il y a eu la confrontation publique face au prophète de Baal. Ça, c'était la première heure de vérité. Et maintenant, pour la pluie, l'heure de vérité, elle se passe à l'écart de tout. Elle se passe dans la prière, dans le dialogue entre un homme et son Dieu. Et c'est là, très clairement, que se joue la suite des événements. Quelques remarques sur cet épisode assez remarquable de l'intercession d'Élie, tout seul sur le mont du Carmel, pour demander la pluie. Première chose que je relève, c'est que on pourrait se dire que Dieu aurait très bien pu immédiatement, après avoir fait tomber le feu du ciel, faire tout de suite souffler un grand vent, amener des nuages et faire tomber la pluie. Ça aurait pu être la façon dont Dieu s'authentifie pleinement comme le Seigneur qui tout de suite se manifeste lui-même et apporte la pluie. Mais dans ce cas-là, Dieu aurait été tout seul à agir, tout seul à se glorifier. Et nous voyons ici qu'il a choisi autre chose. Il a voulu d'abord qu'Élie soit son témoin auprès d'Acab, en lui disant déjà à l'avance sa confiance dans ce que Dieu allait faire. Et puis il a voulu aussi qu'Élie participe en quelque sorte à la réalisation de la promesse en s'engageant dans la prière et en demandant vraiment à Dieu de faire venir maintenant la pluie selon sa volonté. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Dieu pourrait agir sans nous, mais Dieu veut des témoins, comme Élie, des témoins solides, des témoins accrochés à sa parole, à ses promesses, quoi qu'ils vivent, et qui font la preuve de cet ancrage dans ses promesses face à ceux qui les entourent. Et en même temps, Dieu veut des intercesseurs, des croyants, qui prennent à cœur, qui prenons à cœur ce que Dieu lui-même a à cœur, qui partagent le désir de Dieu d'agir, et qui s'implique avec Dieu dans ce que Dieu veut faire en le lui demandant. Et c'est là le rôle d'Élie véritablement comme intercesseur pour demander la pluie. Avoir à cœur ce que Dieu a à cœur Et Dieu aime que nous agissions de cette façon-là, que nous prenions pleinement à cœur dans la prière ce que lui-même a à cœur. Est-ce que nous voulons, pour cette année qui s'ouvre, entrer vraiment dans ces projets, prendre à cœur, par la prière, les personnes, les situations que Dieu lui-même a à cœur, et pouvoir ainsi devenir partenaire de l'œuvre du Seigneur, tout comme l'est ici Élie. C'est une première réflexion sur cet épisode où Élie prie. Deuxième réflexion, nous avons ici en fait deux images du prophète Élie. Peu avant, lors de la confrontation avec Baal, on voit l'homme public, face à tous. Il tient bon, il est fort, il semble être un roc. Mais la vérité, la force profonde de cet homme, c'est la deuxième image qui la donne. Cette image où on voit un homme en prière, humblement devant Dieu. Un homme qui sait s'arrêter, se mettre à l'écart, qui se place devant son Dieu. Un homme qui prend le temps devant Dieu, qui attend véritablement de Dieu qu'il agisse, qui s'attend à Dieu, qui se soumet à Dieu, qui persévère avec Dieu, qui apporte tout à Dieu. Voyez-le penché jusqu'à terre, le visage entre ses genoux. Cet homme qui se tenait debout devant tous, ici, il est humblement devant Dieu. Il n'impose rien au Seigneur, mais il attend tout de lui. La clé de la vie d'Élie, elle est là. Et c'est ce que Jacques, l'apôtre Jacques, nous rappelle dans son épître, lorsqu'il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais ce qu'il relève dans l'œuvre d'Élie, c'est qu'Élie a prié. Il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, et ensuite il a prié pour qu'il y ait de la pluie tout à nouveau. La prière est l'élément décisif de la vie d'Élie, même s'il y a eu aussi l'autre aspect plus public de son ministère. Et je crois qu'il est bon de nous rappeler pour nous aussi que c'est dans ce secret-là que se construisent les choses solides de notre vie. C'est dans ce secret-là que se construit nos vies, notre vie, que se construit notre être. Ne passons pas à côté de cet essentiel. J'aimerais vraiment vous rappeler la devise que nous avons choisie pour cette année et l'illustration qui en a été faite. C'est « Recommande ton sort, confie ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance et il agira ». Je ne sais pas si vous avez en tête l'image qui a été, le graphisme qui en a été fait. Je l'ai presque tous les jours devant moi. Et il y a quelque chose de fantastique dans cette image, c'est que ce qui est au centre, très humblement, c'est la figure de quelqu'un en prière. La figure de quelqu'un en prière et le chemin qui est là, qui part d'un endroit, qui va vers autre chose. Mais ce qui détermine les choses, c'est l'homme en prière. Et j'aimerais nous rappeler cela. J'aimerais nous rappeler cela. Notre force, notre identité, c'est là qu'elle se joue d'abord et avant tout. Et c'est ainsi que nous pourrons avancer. C'est cela qui fera la différence dans notre vie. Ça semble si peu de choses. Un homme tout seul devant Dieu, à genoux, là, comme cela. Si peu de choses. Et pourtant une telle différence. Et pourtant une telle lumière. Voilà ce que nous pouvons retenir aussi de cette image. On relèvera troisièmement un contraste assez surprenant. Lorsqu'il a fallu faire descendre le feu, il a suffi à Élie de prier une fois. Il a prié, c'est tombé. Pour la pluie, ça a été tout à fait différent. Il a fallu qu'Élie prie 7 fois. Il a fallu prier 7 fois. Et 6 fois après qu'Élie ait prié, il envoie son serviteur et à chaque fois, rien n'a changé. Rien n'a changé, on ne voit rien. Pas un nuage à l'horizon. À chaque fois, il a fallu continuer à prier. Élie envoie son serviteur qui dit non, il n'y a rien. Et Élie continue à prier, à demander. Il a fallu persévérer dans la prière. Il a fallu ne pas se décourager. Il a fallu croire encore. Il a fallu demander encore. Il a fallu attendre encore. Comment donner sens à tout cela ? Il y a un équilibre voulu par Dieu. Dieu sait répondre immédiatement à la prière, oui. Mais le fait qu'il ait aussi fallu au même homme, et juste après, attendre 7 fois avant d'avoir un exaucement, nous rappelle que la prière n'est jamais une question d'avoir la bonne formule, ou d'avoir le bon truc, ou de pouvoir avoir la bonne puissance personnelle pour faire que ça marche à chaque fois. Dieu reste le maître, Dieu reste le Seigneur. Les choses ne fonctionnent pas d'un claquement de doigts. Personne n'a la solution personnelle en soi-même de l'exaucement de la prière. C'est le Seigneur qui possède toutes les clés. La prière est une grâce. La prière est un accueil que Dieu nous fait. Et nous avons à entrer dans sa volonté, dans son rythme à lui, à devenir participants de la façon dont lui voit les choses pour nous. Et nous sommes invités là à savoir aussi persévérer, à savoir tenir bon, dans la foi, dans l'espérance, même si Dieu ne répond pas tout de suite. Alors c'est vrai, certaines choses demandent vraiment du temps pour se former. Quand Dieu doit faire travailler bien des choses pour nous exaucer, il faut parfois du temps, il faut beaucoup de convergence, et notre persévérance doit répondre à ce temps que Dieu prend pour faire converger les choses. Souvent aussi, nous avons à apprendre, nous avons à grandir dans la dépendance, nous avons à nous approfondir dans la persévérance, dans la prière. Et nous avons à apprendre que dans la vie, tout ne se résout pas d'un claquement de doigts, ni d'une formule de prière. Par contre, ce qu'il est important de relever, c'est que quelle que soit la façon et le temps dont Dieu agit, Dieu ne manque aucun de ses rendez-vous. Dieu n'a pas manqué le rendez-vous immédiat où il fallait faire tomber le feu du ciel à la prière unique d'Élie. Et Dieu n'a pas manqué le rendez-vous à la fin de ces sept temps de prière. Nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur. Mais sachons aussi nous préparer à la persévérance si cette persévérance nous est demandée. Et souvenons-nous qu'il y a tant de choses à recevoir, à manifester envers le Seigneur, à véritablement apprendre dans ce cheminement. Rappelons-nous aussi que notre Seigneur Jésus a lui aussi offert à Dieu des cris et des supplications, lors de Gethsémané en particulier, et qu'il a été exaucé à cause de sa piété, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire à cause de sa soumission confiante, persévérante et volontaire, même si ce n'était pas évident. Enfin, quatrièmement, je voudrais dire un mot à propos du serviteur d'Élie. Vous avez vu que Élie prie à plusieurs reprises, et chaque fois, il envoie son serviteur pour guetter s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et je crois que c'est juste intéressant de noter cela, et il me semble que c'est pour nous une invitation à savoir vraiment attendre du Seigneur son action lorsque nous prions. À attendre vraiment du Seigneur son action. À être attentif à ce que Dieu fait. Élie prie, il envoie son serviteur pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose se passe? Il a ce souci de savoir ce qui se passe. En quelque sorte, il ne prie pas juste pour prier ou pour dire « j'ai prié », mais il a aussi un regard sur ce que Dieu fait au moment où il prie. Il me semble que nous avons aussi peut-être à cultiver cette manière de prier qui reste intentionnelle et attentive vraiment à ce que Dieu fait. Le psaume 130 nous dit « j'attends le Seigneur de toute mon âme ». Je compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes n'attendent le matin. Prier, c'est attendre comme des gardes qui attendent la lumière du jour. C'est parfois exigeant de se demander vraiment si quelque chose change. C'est exigeant parce d'attendre très concrètement. On risque de devoir en reprendre sur soi si ce qui survient n'est pas tout à fait conforme à ce que nous attendons, ou n'est pas dans les temps de ce que nous attendons, ou si cela tarde. Mais d'un autre côté, une prière qui n'attend pas du Seigneur quelque chose est une prière qui perd son sens. Si on prie juste pour avoir prié, c'est comme une sorte de parole qui tourne en rond. Donc gardons l'intentionnalité lorsque nous prions, et je pense que nous pourrons aussi discerner à ce moment-là, pas à pas, des choses que Dieu fait, et peut-être ça pourra aussi donner plus d'intensité à nos prières. En tout cas, l'encouragement de ce récit est que Dieu, en temps voulu et en réponse à la prière fervente d'Élie, fait survenir ce que l'on n'attendait plus. Voilà qu'un petit nuage surgit là, au-dessus de la mer, de la taille de la paume de la main, nous dit le texte. Et à partir de là, tout s'accélère. Le ciel devient noir, la pluie commence à tomber. Akab est invité à vite partir du Carmel et il rentre trempé sur son char, mais certainement qu'il a jamais homme trempé n'a été aussi heureux que qu'Akab ce jour-là. Au milieu de toute une foule qui devait être là en liesse à enfin s'émerveiller de ce que l'on attendait tellement. Et l'on voit Élie, fort de l'énergie du Seigneur et de tout ce qui s'était passé, qui court devant le char d'Akab comme un vrai semi-marathonien. Le char d'Akab avancera au rythme du prophète qui court devant. Et c'est Élie, le porte-parole fidèle du Seigneur, qui ouvrira la route pour attester sans contestation que tout cela était bien l'œuvre du Seigneur. Alors, ce texte nous invite à notre niveau, au niveau de ce que nous vivons, à être persévérants, à être fidèles, à être fervents. Dieu a des ressources d'amour et de grâce pour nous. Dieu garde des ressources pour nous dans toutes les situations que nous connaissons. Il reste un Dieu de grâce. Ayons foi en lui. Sachons affirmer notre foi lorsque cela nous est donné. Comptons vraiment sur lui, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Et son aurore viendra. Il saura verser de l'eau sur un sol altéré et des ruisseaux sur une terre desséchée. Amen.